Alors bonsoir, bienvenue à cette rencontre avec Élise Turcotte. Je dois dire pour moi c'est un grand plaisir parce que je suis Pierre Neveu. Je connais Élise depuis très longtemps, mais je lui ai appris tout à l'heure que j'avais jamais fait d'entrevue avec un écrivain. Alors, donc déjà pour moi c'est une première, mais avec Élise en particulier, je dois dire c'est un grand plaisir. Je voudrais quand même rappeler un peu le parcours très sommairement. Enfin, la plupart d'entre vous le connaissez, mais quand même faire certains rappels qui vont peut-être aussi ouvrir la voie ensuite à notre dialogue. Élise, tu es née à Sorel et vécu, cela dit, pour l'essentiel à Montréal, où tu as été bibliothécaire avant d'enseigner au Cégep du Vieux-Montréal depuis un bon nombre d'années. Il me semble que la première chose qu'il faut dire, c'est que tu te fais connaître d'abord dans les années 80, même si tu avais écrit une nouvelle, La mer à boire, en 1980, tu te fais connaître surtout par une série de recueils de poèmes qui ont été très bien reçus par la critique depuis 1982 à 89, et notamment les deux derniers, La voix de Carla et La terre est ici. Aujourd'hui encore, à ma connaissance, tu demeures et tu vas probablement demeurer pour de bon la seule auteure québécoise, la seule poète québécoise à avoir remporté deux fois le prix Émile Nadigan. Donc, pour La voix de Carla en 87 et une nouvelle fois pour La terre est ici en 89. En 91, tu passes au roman et c'est un passage fort réussi puisqu'il s'agit du bruit des choses vivantes, un roman que tout à fait remarquable, qui sera traduit en anglais et en catalan. Et d'une façon générale, je dirais que les années 90, c'est l'âge de la prose pour toi, puisque après ce roman, 91, il y a Caravane, un recueil de nouvelles, aussi tout à fait remarquable en 94. Un nouveau roman, L'île de la merci, en 97. Et puis, à partir de 98, alors un autre volet dont on parle peut-être souvent moins, un volet littérature jeunesse, littérature pour enfants, avec les cahiers d'Annette et un grand nombre de livres jeunesse, notamment à la courte échelle, à partir de 98, et il y en a un bon nombre dans les années qui suivent. Alors, on aurait pu croire, mais c'est qu'au seuil des années 2000, que tu t'étais éloigné pour de bon de la poésie, mais non, puisque tu reviens avec Sombre et Ménagerie en 2002, qui obtient le Grand Prix du Festival international de poésie de Trois-Rivières, et bien sûr, plus récemment, Piano mélancolique en 2005. Et bien sûr, tu restes fidèle au roman, puisque La Maison étrangère obtient le prix du gouverneur général en 2003. Bref, je dirais un parcours riche, cohérent, fidèle à lui-même et en même temps qui ne cesse de surprendre, de troubler, de nous conduire à travers souvent la plus immédiate quotidienneté vers des régions instables, psychiques, des régions psychiques assez obscures, angoisse, peur, identité incertaine, mémoire perturbée ou manquante. Enfin, c'est tout ça passablement intéressant. Et alors, j'ai choisi de commencer par te faire lire, si tu veux bien, un extrait d'une nouvelle de Caravane qui s'appelle « Une tâche », qui pour moi fait entendre quelque chose. Bon, on pourrait commencer par le commencement et on va y revenir, là, du côté de la poésie et tout, mais il me semble que Caravane, donc qui paraît en 94, cet extrait-là en particulier, pour moi, c'est le côté domestique de ton œuvre, mais en même temps, il se passe quelque chose là d'assez particulier. Alors, je suis allée à la cuisine, ça commence comme ça.
Jusque-là. Okay. Jusque-là. Moi, j'obéis.
Elle n'a pas le choix.
Très obéissante. Moi, je pourrais te rendre mal à l'aise, finalement, ta première entrevue. Non, je n'ai pas le goût de dire ça.
Ça serait vraiment gentil. Ouais, j'avoue que ça serait assez réussi, ça.
Mais cette nouvelle-là, je comprends pourquoi tu l'as choisie, en tout cas. Je suis allée à la cuisine préparer le souper des enfants. Marielle est arrivée déguisée en première communiante. C'était le costume de la petite voisine d'à côté. La robe était longue et blanche. J'ai trouvé que ma fille avait l'air d'un ange, la petite voisine aussi. J'ai mis le poulet au four et je demandais à mon ami d'aller chercher Simon à la garderie. Il a regardé l'heure. Il s'est levé pour y aller. Il a dit oui. J'ai souri jusqu'au plafond parce que j'ai toujours aimé entendre oui. Mon ami m'a souri parce qu'il aime toujours me voir sourire. Quand ils sont revenus, tout était parfait. Ils se tenaient par la main. Tout était parfait. J'ai relu ma recette pour voir si je n'avais pas oublié un ingrédient. Ça m'arrive souvent. Ensuite, je me suis changée devant la fenêtre en me demandant si la voisine d'en face pouvait me voir. Sur le coup, j'ai trouvé ça primordial de le savoir. Après, ça s'est estompé. Parce que j'avais hâte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours hâte. J'ai hâte. J'ai demandé à mon ami si mon chandail était correct. Il n'y a que moi pour demander si un chandail est correct. Je voulais dire beau. Je voulais dire extraordinaire. En tout cas, il a dit oui. Il coupait les légumes. Il allait vite comme dans un restaurant japonais. Pendant une seconde, j'ai eu peur qu'il se coupe les doigts. Mais ça s'est estompé. Tout s'estompe toujours avec moi. Parce que j'ai hâte. J'ai trop hâte. J'ai pris quelques carottes et je les ai mangées. J'adore les carottes crues. Puis, il a fallu que je cherche partout le dinosaure de Simon. Quand je l'ai trouvé, j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose de vraiment difficile. Cette impression était déjà présente avant et elle s'est amplifiée juste au moment où j'ai tendu le dinosaure à Simon. Ensuite, elle s'est estompée. Quelque chose sentait vraiment la pourriture dans le frigidaire. Très difficile, ça aussi. J'ai trouvé un vieux brocoli cuit et je l'ai jeté. Je ne me suis pas salie. J'ai dit « Bonsoir tout le monde » et je suis allée rejoindre mon ami au restaurant.
Bon, je dois dire que j'adore ces carottes, ces brocolis, ces dinosaures et tout.
C'est vraiment
enfin,
domestique.
On est vraiment dans la cuisine. Oui. En même temps, on est au bord d'une sorte de dérèglement généralisé. C'est plein d'inquiétudes, d'une fébrilité au bord de la perte de contrôle. Moi, la première question qui me venait à partir d'un passage comme celui-là, mais j'aurais pu en mentionner d'autres, c'est qu'il me semble que lire Élise Turcotte, c'est peut-être arriver à cette définition de la littérature, c'en est une possible en tout cas, qui serait que la littérature est l'art d'organiser les mots et les phrases de telle sorte que cela fait surgir de l'insensé, quelque chose qui nous mène au bord d'une perte possible de sens. Et je te demanderais, moi j'ai l'impression que l'insensé, quelque part, est au cœur de ton travail,
oui,
en tout
oui.
cas comme proximité, comme quelque chose qui pourrait arriver. Ça n'arrive pas toujours, parfois oui. Pourquoi penses-tu, et je dirais, est-ce que c'est la réalité elle-même qui est déraisonnable ou est-ce que c'est l'écriture te mène
c'est peut-être
nécessairement
moi, c'est moi qui est déraisonnable.
Genre, je n'oserais pas le dire.
Mais non, c'est ça. Moi, ça me dérange pas. Maintenant, ça me dérange plus de le dire. Non, mais je trouve cette définition-là vraiment belle. Je vais la noter après. Ça fait chic. Non, mais c'est vrai que, surtout dans cette nouvelle-là, là, on n'a pas vraiment bien saisi comment... Parce que souvent, je la lis au complet, je la lis très vite pour qu'on sente bien que tout ce qui se passe est naturellement réaliste. Un brocoli pourri dans le frigidaire, bon, là, c'est peut-être seulement chez moi que ça se passe, mais les enfants qui reviennent de la garderie. Bon, la narratrice parle beaucoup aussi du langage qu'elle trouve comme « mon ami », là, on n'a pas compris, mais elle dit, on dit toujours « mon ami » au lieu de dire « mon chum » ou « mon amoureux ». Bon, elle trouve que le langage ne dit pas assez ce qu'il devrait dire. Et finalement... tout ça se passe et ça finit un peu en catastrophe parce que, bon, au restaurant, quelqu'un renverse un verre de vin sur elle et tout. Puis elle se rend compte qu'il ne s'est rien passé, mais en fin de compte, il s'est tout passé. C'est peut-être ça qui va avec la définition. Pour moi, je me demande si c'est... Est-ce que écrire, c'est organiser les mots pour créer de l'insensé ou bien l'insensé est déjà là, puis moi, j'essaie juste de le recapter. C'est ça la différence. Parce que je les vois insensées, les choses.
Mm-hmm.
Non, mais je les perçois déjà comme étranges ou conduisant vers la folie. Ou plus c'est réaliste, plus c'est quotidien, plus ça me conduit vers un lieu de déséquilibre, je dirais.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Alors, mais aussi, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, mais aussi dans les films que je vois, dans l'art en général, c'est le moment de déséquilibre. C'est pas nécessairement le moment ou le moment de trop d'équilibre, là, mais ça revient au même. Mais c'est ça qui me fascine,
mm-hmm.
dans l'écriture, par exemple.
J'ai l'impression, tu as parlé des choses qui arrivent et tout, ce que j'appelle l'insensé, c'est lié pour toi quand même en partie à la notion d'événement. Ça, c'est une chose qui me frappe, vous savez, c'est-à-dire au fait que des choses arrivent ou n'arrivent pas.
Oui, oui.
Ça me frappe que, par exemple, la première phrase du bruit des choses vivantes, auquel on pourra revenir, c'est « plusieurs choses arrivent dans ce monde ».
Bon, oui.
Alors, c'est vrai, effectivement, plusieurs choses arrivent. Arriver, c'est un verbe un peu obsessif, j'ai l'impression, dans ton œuvre, et problématique aussi.
C'est-à-dire j'ai essayé de l'enlever.
Les choses arrivent.
J'avais travaillé tellement fort.
Non, mais c'est, au contraire, ça me semble très révélateur. Oui. Par exemple, dans une autre nouvelle de Caravane, qui s'appelle « Conversation », la narratrice parle d'un homme avec qui elle vit.
Ah oui, c'est
et
bon
elle
ça.
Dit, lui, c'est il croit que les choses arrivent exactement. Et elle a l'air très étonnée que lui croit que les choses vraiment puissent arriver vraiment, exactement. Puis à la fin de la tâche, la même nouvelle dont tu viens de lire un extrait, la narratrice conclut, après justement ce dégât de vin, elle attache la tache de vin sur sa robe, j'ai pleuré parce que quelque chose était vraiment arrivé, une tache de vin sur son chandail. Bon, c'est le chandail de...
C'est son chandail.
Alors, j'ai l'impression que c'est le statut même de l'événement qui est problématique chez toi. C'est-à-dire que... Pourquoi est-ce que c'est à ce point... qu'est-ce qui fait que l'événement est si problématique? On a l'impression que on n'est jamais sûr, ou que tu es jamais sûr que les choses puissent vraiment arriver, ou bien alors tu es submergé par des choses qui arrivent.
Ah, ben ça, oui. Je peux le dire. Oui. Je suis submergée, point, et par les choses qui arrivent.
Ou peut-être les choses arrivent et... c'est jamais sûr qu'elle nous ou qu'elle t'arrive à toi. C'est-à-dire, il y a peut-être ça, les choses surviennent.
Les choses surviennent, mais j'aimais assez la citation de moi. En tout cas, ça fait drôle de dire ça. Du début, elle dit, toi, tu crois vraiment que les choses arrivent exactement.
Oui.
C'est que la réalité n'est pas exactement ce que vous croyez qu'elle est. Moi, c'est ça que je fais un peu en écrivant. Mm-hmm. Pour moi... Le brocoli qui pourrit dans le frigidaire cette fois-là voulait dire exactement autre chose. Et ça aussi, mais voulait dire tout
autre
le...
Autre chose, c'est-à-dire?
Tout le désarroi de ce personnage-là, la vitesse avec laquelle sa vie... ça, c'est une nouvelle de 5 pages, là, mais oui. On sent que c'est une femme au bord de la crise d'honneur, pour reprendre un titre de film que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Je m'identifie complètement à ça. Mais on sent qu'elle est au bord de la crise d'honneur. Et moi, pour le montrer, je ne veux pas l'expliquer, je veux juste montrer les objets autour d'elle. Puis dire que, oui, quelque chose est vraiment arrivé, mais elle ne l'a pas dit, la narratrice ne l'a jamais dit. Est-ce qu'on peut les dire, ces choses-là aussi? C'est ça le nœud de la littérature. J'essaie de le dire, mais ce qui arrive vraiment dans les choses qui arrivent, est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est dissible? Bon, en tout cas, j'espère que oui, mais c'est ce que j'essaie de faire. C'est-tu clair?
Ben.
Ça doit.
En tout cas, c'est certain que derrière ça, il y a une idée d'un possible dérèglement. Là, je reviens un peu à l'insensé.
Oui.
Je prendrai un autre exemple. Je suis toujours dans Caravane, parce que Caravane, de ce point de vue-là, je trouve à plusieurs passages intéressants. Alors, dans une autre nouvelle, je ne me souviens pas laquelle, je crois que la narratrice est assise dans un wagon de métro. Et d'ailleurs, une bonne partie du voyage de la nouvelle se passe dans le métro. Et elle voit entrer, une vieille dame avec un sac. La vieille dame vient d'acheter toutes sortes de choses. Et là... elle vient, la vieille dame commence à fouiller dans ses sacs, elle n'a pas l'air contente de ce qu'elle a acheté. Finalement, à un moment donné, elle sort de son sac une sorte de robe de chambre. Et là, elle se met à examiner les coutures, semble-t-il, parce qu'elle n'est pas satisfaite des coutures et tout ça. Et là, ça devient... Mais l'intensité de l'observation sur cette personne-là est extrême, je dirais. Et en même temps, on sent dans tout ça, c'est-à-dire... que finalement, l'événement, je dirais, là, ce serait la perception de, je ne sais pas, peut-être d'une erreur dans les vêtements qu'elle a achetés, ou quelque chose. Enfin, en tout cas, une sensibilité à l'imperfection ou au dérèglement. Et d'ailleurs, dans d'autres textes de toi, il y a quand même un caractère assez obsessionnel de l'ordre et du système et tout. Curieusement, oui, à un moment donné, j'aime beaucoup.
Tu as
une narratrice qui dit, je ne me souviens pas où, qui dit j'aime beaucoup l'ordre, mais c'est peut-être pour combattre juste simplement.
Le désordre,
oui. Oui, simplement.
Oh, ben, Ce qui est intéressant parce que, ben là, j'apprends en même temps. Il faut que je réfléchisse assez vite. Mais ce que je trouve l'événement dans ce que tu viens de dire, c'est l'événement, c'est la perception de la fille, de la narratrice qui est dans le métro. Je pense que l'événement est dans le regard, mm-hmm. finalement. Parce que dans le métro, cette femme qui déballe sa robe de chambre, sa foutue robe de chambre, mais probablement personne ne l'a regardée de la même façon que la narratrice la regarde. Ou moi qui finis par l'écrire, mais c'est peut-être que l'événement est dans le regard, porté sur les choses.
Moi, je trouve tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une telle précision du regard sur l'autre, et qui d'ailleurs, souvent dans tes textes, peut devenir carrément du voyeurisme, par exemple, dans une nouvelle, ou regarder la voisine à travers la fenêtre. D'ailleurs, tout le thème de la fenêtre, regarder les voisins, le petit Félix, ou ce regard, mais qui a une précision qui n'est pas vraiment, qu'on ne peut pas qualifier de malsain, qui est juste une sorte de curiosité. Comme c'est étrange, elle fait ça dans sa cuisine, l'autre à côté. Et ça existe terriblement.
Oui, ben moi j'aime ça, cette phrase-là, ça existe. Moi, quand j'écris, j'essaie de... Ce que je voudrais le plus faire, c'est de que la vie sorte de mes livres, disons. Qu'on a l'impression que sa vie. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui sort de là. Comme La Maison étrangère, par exemple, au début, quand je commençais à l'écrire, je me disais, j'aimerais qu'on l'ouvre avec des animaux en sorte, ou... Bon,
c'est
un bestiaire. Ouais. J'aimerais qu'on sente tout le tissage. J'aimerais qu'on sente la texture de la tapisserie médiévale que j'ai essayé de faire. Parce que pour moi, c'est sensuel, l'écriture. Mm-hmm. Très. Et puis, dans le regard aussi, c'est parce que quand tu disais tantôt, oui, la narratrice dans Caravane regarde à l'extérieur et tout ça, c'est vrai que moi, j'observe beaucoup. Mais la vie est extraordinaire dans un sens. Dans un sens pénible et dans un sens extraordinaire aussi, là, mais les choses, si on les regarde, elles sont insensées. C'est insensé regarder et observer. Moi, je trouve. Donc, j'ai cru longtemps que j'étais comme un témoin. Moi, je me disais, dans le roman, pas dans la poésie, mais dans le roman, je me disais, dans le fond, j'écris parce que je suis témoin de telle ou telle chose. Mais je crois que c'est pas assez, parce que je prends pas la réalité pour la replaquer dans une écriture. Je la refais quand même, ou je l'organise un peu à ma façon. C'est ma façon d'organiser ou de désorganiser, parce que moi, j'ai cru longtemps que j'organisais le chaos, mais finalement, en vieillissant, puis plus j'avance dans l'écriture, plus j'essaie de garder le chaos, de cesser de l'organiser au complet. C'est-à-dire... Je ne sais pas si tu as cette sensation-là. Quand on commence à avoir un projet, c'est toujours chaotique un peu. On a une vision.
Il le faut, d'ailleurs.
On a des images, on a une vision, mais on n'arrive pas à saisir exactement ce qu'on veut faire. À un moment donné, tu entends un peu la voix du récit. Ou, pour moi, c'est musical. J'entends la voix du récit. Et longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je... pas domestiquer mon chaos, c'est un peu exagéré, mais que je l'organise. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que c'était pas ça du tout que je faisais. C'était juste, au contraire, réessayer de retrouver la vision première, chaotique. Mm-hmm. Puis quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, waouh, il faut que je m'en rende compte quand j'écris maintenant. C'est-à-dire à la fois organiser parce que je fais de l'architecture, parce que j'écris, et en même temps, retrouver le chaos, le garder intact. Ouais.
Je crois que tu le fais depuis le début, d'une certaine façon. C'est-à-dire avec une sorte de discontinuité qui fait que...
Mais je ne savais pas.
Je
l'ignorais complètement. Mm-hmm. Mais de le savoir, ça m'a tellement aidé, parce que ça m'a fait, je ne sais pas comment dire, ça m'a libérée de tout. Non, ce n'est pas vrai. Pas des brocolis. Non, ça m'a vraiment... pas de la vie quotidienne. Mais ça m'a vraiment libérée. Oui. Je ne sais pas, ça a libéré quelque chose dans ma voix, je pense. Un peu plus de lousse, disons, dans ma façon d'écrire. Je ne veux pas dire que je travaille moins mes textes, au contraire, mais il y a quelque chose que ça m'a donné de m'en rendre compte. Mm-hmm. Puis de me dire que l'instinct qui me donne cette vision chaotique-là au début est aussi important que... le métier que j'ai d'écrire. Il faut que je sois entre les deux tout le temps. Mm-hmm. Mais es-tu comme ça, toi?
Oui, jusqu'à un certain point, sûrement. Mais là, c'est pas de moi qui...
Non, mais c'est
juste... c'est pas que tu fasses l'interview.
Non, c'est juste pour... Moi, je m'essayais un peu.
Une belle tentative.
Non, mais ça fasse un peu de dialogue.
Oui. Non, mais ça va bien.
Ça va bien. Okay.
Mais tu as employé l'expression « la voix du récit », puis ça me permet peut-être de... Et là, je vais peut-être faire un retour en arrière quand même, parce que à travers la voix, la musique, les bruits, il me semble que là, on revient aussi, en partie, en tout cas, à l'espace de la poésie. La première page dans le Delta de la nuit, en 1982, contient cette phrase-là, mais parmi d'autres, « Je suis traversé par des ombres qui bavardent dans le Delta de la nuit. » Des ombres qui bavardent. Pour moi, c'est pas évident. C'est-à-dire des ombres, oui, mais qui bavardent. Alors déjà, t'entends les ombres, t'entends un bruit de fond, là, quelque chose qui vient d'ailleurs. Et ailleurs, t'as une voix appelle mon nom. Dans la terre est ici, il y a plusieurs exemples de ça. Quelqu'un nous appelle, nous demande le nom des arbres, par exemple, dans un des passages. Et évidemment, ensuite, il va y avoir la voix de Carla, le bruit des choses vivantes. Et dans la voix de Carla, évidemment, la pensée fait du bruit, les arbres, la démarche. Puis on pourrait ajouter à ça aussi que souvent, ou bien dans tes poèmes, dans La Terre est ici, mais aussi dans certains romans, bien sûr, les personnages écoutent la musique, Liza Minnelli, les Rolling Stones, Miles Davis, enfin, on peut en donner beaucoup. J'aimerais que tu parles de l'auditive ou de la musicienne. Il me semble que ça, c'est quand ben, même...
Tu en as bien parlé.
Il me semble que c'est il y a d'un côté le visuel qui est très fort, les images comme telles, qui va donner aussi les paysages dans la théorie d'ici, mais tu as ce côté très auditif qu'on trouve jusqu'à la fin dans Piano mélancolique.
Oui, je m'en étais pas rendu compte à ce
d'abord,
point-là.
D'abord, est-ce que tu as dans ta vie une pratique musicale?
Non, pas du tout.
Non.
Mais c'est un
parce
grand...
que j'ai pensé à un moment donné que tu étais peut-être pianiste. Ou...
Ah, ça ferait...
Non,
vraiment pas. j'ai fait du chant classique pendant quelques années, 3-4 ans, mais j'adore la musique, ça c'est vrai. Il y a des choses... des fois, on dit je pourrais pas vivre sans musique, mais c'est vrai. Là, je pourrais pas vivre une journée même sans musique. Ça se peut pas dans mon cas. Là. Mm-hmm. La voix, tout ce que tu viens de dire, je l'avais pas compris, dans le fond. Parce que moi, j'ai toujours pensé d'être plus une visuelle, de travailler avec des images assez presque cinématographiques, ou en tout cas comme des tableaux. Mais c'est vrai que c'est là. La musique est présente. Les choses font du bruit. Je travaille avec la langue aussi. La langue, j'ai fait de la poésie avant de faire de la prose. Donc, la sonorité, le rythme. Tout ça est très important pour moi. J'écris à voix haute, donc je dois entendre le...
T'écris à voix haute?
C'est oui. Je suis très, très, très fatigante dans mon bureau. Je parle tout le temps de ça. Mais j'écris vraiment à voix haute parce que...
Roman ou poésie ou les
deux?
Ah oui.
Oui, tout.
Ah, intéressant, ça, quand même.
Oui, parce que même les livres pour enfants. Parce que même si je corrige un élève, des fois, ça devient fatigant parce que pour me concentrer, je relis ces... J'en ai ici, là. Je relis vos textes à voix haute. C'est comme ça que je vois vite qu'est-ce qui ne marche pas. Mais non, mais c'est pour dire que c'est pour moi, un texte doit faire l'épreuve du concret, du sensuel, comme je disais tantôt. Et dans ce cas-ci, c'est la voix, évidemment, pour moi. Mm-hmm. Même si j'ai tout un contact avec les livres, l'ordinateur, le bruit du clavier. C'est drôle, j'ai retrouvé une note dans mes cahiers sur le bruit de mes doigts sur le clavier. C'est tous des sons qui sont importants pour moi. Mm-hmm. Et je dirais aussi le silence. Le silence est très important en écriture, surtout en poésie. Mm-hmm. Est-ce que je te convainc de quelque chose?
Mais en tout cas, pour moi...
Mais c'est la langue, c'est le langage, parce que si je parle de la réalité, disons, si on dit que, bon, du domestique au quotidien, j'aime assez cette idée-là que j'écris sur la domesticité ou jusqu'à l'insensé, c'est dans le langage que ça devient sensé aussi. Mm-hmm. C'est pas juste dans mon regard. C'est faut que je le transmette.
Je l'entendais tout à l'heure dans ta lecture, c'est ce côté. Il y a une musique là-dedans de la prose qui est une musique syncopée, un peu fébrile, un peu haletante, mais qui fait qu'on passe d'un objet à l'autre. C'est ça, on passe des carottes au brocoli, aux dinosaures et tout. Mais c'est la voix qui porte ça aussi.
C'est la voix. Mais c'est sûr que quand on lit avec notre voix. Moi, je pense que les choses, on les entend. Les mots, on les entend. C'est les sonorités. quand j'étais jeune, c'est les mots que j'entendais qui me faisaient réagir. C'est pas seulement les voir, c'est les entendre. Mm-hmm. Tu mm-hmm. sais, quand on a des enfants, leur apprendre à parler, comment c'est jubilatoire pour eux de prononcer des mots, de les reprononcer, de les répéter. C'est la musique de la vie, ça.
Moi, je pense que la langue, ça prend effectivement comme musique aussi.
Comme une musique.
Oui,
vraiment. Si tu n'as pas de plaisir à l'apprendre, ça peut pas fonctionner. Mais c'est la même chose dans l'écriture. Ça, je le dis souvent à mes élèves, il faut que le rythme soit là, la sonorité. C'est une matière, le langage. Mm-hmm. Donc, on joue avec comme une musique. Mais c'est sûr que si j'avais pu, disons que moi, j'aurais voulu avoir plusieurs vies parce qu'il y a plusieurs affaires que j'aurais voulu faire, mais être musicienne, j'aurais vraiment aimé ça, être chanteuse, disons. C'est une des choses que j'aimerais faire. D'ailleurs, je me dis tout le temps, je vais faire un petit spectacle un jour, mais ça n'arrivera jamais. Il y a comme des affaires qui me... Je suis pas contente encore. Il y a quelque chose que j'ai pas fait.
Oui. Non, mais c'est un rêve que je comprends très bien. Je l'ai moi aussi.
Oui.
On pourrait le faire ensemble.
Oui. Mais tu joues de la guitare, non?
Oui, un peu.
Ah ah. Pierre m'a vu à la guitare électrique. Élise Turcotte, on voit.
Et Élise Turcotte, dansant peut-être aussi, parce
moi,
que la danse,
peut-être danser.
Ça peut être chantant et dansant.
Danser, ça serait peut-être moins. Ça serait moins bien pour les autres.
Du côté de la poésie, bon, j'aime tout ce que tu fais, mais j'ai une prédilection pour La Terre est ici, qui pour moi marie justement très bien cette espèce de qualité de la voix, une voix un peu étrange, qui est un peu en dérive, et qui en même temps est très... joue beaucoup dans l'espace, puisqu'il y a la notion de paysage et tout ça. J'aimerais peut-être, tiens, pour qu'on entende, j'ai retenu deux pages que je te propose.
Okay.
Est-ce que tu acceptes de les lire?
Ouais. Je vais y penser.
Bon, alors, fragments 43 et 44... je sais pas, ça convoque beaucoup d'éléments, je trouve, qui sont assez caractéristiques, tant sur le plan des paysages que sur le plan auditif.
Ah bon, OK. La mer descend parfois à la place où nous sommes. Rien ne nous protège plus. Nous tenons le champ bien visible entre nos mains. Nous ne disons pas le mot, mais la mort divise l'air avec ses petites ailes. Nous mangeons vite les restes du paysage, car la pluie nous attend, avec ses entrées faciles dans la tristesse. Des images gratuites nous caressent les yeux. Nous ne sommes pas prêts. Hors d'atteinte, nous tenons les reflets de la mer comme un mur. Nous ne disons pas le mot. Certains jours, nous remettons sans cesse la même musique, décrivant tous les ciels comme des maladies. Nous ne disons pas ce qu'il y a. L'abri nous manque lorsque nous dormons et nous vivons serrés contre nos bijoux. Nous sommes la plaine, le détroit, les falaises. Nous sommes l'après-midi lent entre la ville et le fleuve. Maison de briques rouges, nous marchons. Aujourd'hui, le vent nous ressemble, car les jours passent et il n'y a pas de secret. Maison de briques, lierre, rangée de jardins. La peur est encore sous la neige. Au nord, la glace multiplie le paysage. Banquise, vague, fragments de la banquise. Au sud, nous penchons la tête, nous voyons des fleurs jaunes entre les crevasses.
J'aime beaucoup ces textes-là. Je dirais que quand j'ai enseigné ce recueil-là dans plusieurs cours, et les étudiants, souvent, une des questions qui se posait, c'est le « nous » ici. Et je trouve que le « nous » en lui-même, dans ce recueil-là, est porteur d'une musique. Enfin, c'est lancinant, ça revient constamment, ce nous. Alors, un nous qui est à la fois disponible, qui a parfois été effrayé, parfois... Bon. Et ce nous-là, pour toi, c'est un couple ou c'est plus large?
Ah, c'est large.
Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était plutôt comme une sorte de communauté ou de collectivité.
C'est très large. J'ai pas beaucoup de couples dans mes livres, si on y pense comme il faut.
Non, non.
Finalement.
On peut se demander pourquoi.
Deuxième élément de psychanalyse. Mais c'était un nous assez large, parce que moi, j'avais construit mon recueil, parce que dans la poésie, il y a vraiment une façon de... Mes livres de poèmes, c'est pas des recueils de poèmes, c'est des livres pour moi. Je les construis dans une entièreté, avec une globalité. J'avais fait une première partie qui s'appelait « Les autoportraits », et dans la deuxième partie, c'est « Les paysages », et la troisième, c'était des portraits. Et puis, j'ai placé, pour moi, les deux, le « je » et le « il » ou « elle », regardaient le « nous » des paysages. Alors, pour moi, le « nous », c'était aussi bien les êtres humains, moi, que nous sommes nous sommes la banquise, que même tous les paysages. Donc, notre rapport avec, pas la nature, parce que ça fait un peu...
Moi, je ne dirais pas que c'est la nature.
Ce n'est pas la nature, non, c'est les paysages,
les paysages,
la beauté du
les
paysage.
Les espaces, les lieux, parce les qu'il y a lieux. Aussi l'intérieur, la maison, qui reçoit d'ailleurs des choses de l'extérieur. Des fois, la porte est ouverte, puis il rentre de la poussière. Ou il rentre...
Oui, toujours cette même histoire de poussière.
Obsession pour la saleté.
Oui, mais oui, c'est ça. Mais c'était vraiment ce nous-là. Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est le nous de... Nous sommes là... C'est le nous de... comme la Terre est ici, là, et nous sommes sur cette Terre. Mm-hmm. C'est ce nous-là pour moi. Puis dans cette partie-là, c'est en plus, il y a les paysages qui sont là avant nous et qui vont y rester probablement après. Mm. Bien là, on ne sait plus, par exemple.
C'est un nous très contemporain, finalement, aussi, qui a du mal à habiter, qui se déplace, qui voyage, un nous errant un peu.
Oui, c'est complètement dans l'errance. Ouais. Moi, malgré ce qu'on pense souvent de mon écriture, ma pensée est très errante et j'aime l'écriture qui... Mes personnages sont des errants, je trouve. Mm-hmm, mm-hmm. Mon écriture aussi. D'ailleurs, même mon écriture de phrase en phrase, parfois je louvoie un peu. Je passe d'une idée à une autre. Je tricote bizarrement, mais je m'aperçois de ça. Je tricote... c'est pas très... Il n'y a pas une rationalité facilement... perceptible dans ma façon de tricoter mes phrases, une après l'autre. Mm-hmm. C'est comme la réalité.
toujours dans cette notion d'espace ou de paysage, d'ailleurs, ça apparaissait un petit peu dans ce que tu viens de lire avec les images de banquise et tout ça. C'est de temps à autre, et ça va surgir beaucoup dans le bruit des choses vivantes, c'est entre autres les paysages plutôt nordiques. D'ailleurs, tu dis, la narratrice du bruit des choses vivantes dit, on pourrait me définir ainsi, une fille qui aime les maisons et aussi les glaciers. dans La Terre est ici, il y a une phrase que j'aime bien aussi, le pôle Nord se trouve quelque part dans notre cerveau. Que penser de cette obsession pour le Nord? Mais est-ce que c'est, d'abord, est-ce que ça vient... d'une expérience directe du Nord, où c'est un Nord purement fantasmé, à travers aussi, évidemment, on peut avoir des albums, que ce soit le National Geographic ou autre, où on a des photos. Mais ça m'a fait penser au roman de France Daigle, Pas pire, dans lequel il y a un personnage, Hans, qui est un étranger allemand. Les autres personnages sont plutôt des Acadiens, Isère et tout. Et lui, à un moment donné, il achète des diamants. Et il se promène avec des diamants dans sa poche. Et il vend tout ce qu'il a pour avoir ces diamants-là. Et je me demandais, c'est sûr que là-dedans, il y a comme une quête de... Le glacier aussi, il y a quelque chose de diamantaire.
Ah oui, c'est complètement diamantaire.
Quelque chose d'assez net et pur aussi. Quelque chose qui est presque ascétique, mais qui en même temps est magique, comme le diamant peut l'être.
Ouais.
Je ne sais pas si ça a quelque chose de ça ou si simplement cette préoccupation pour le Nord et
rien
d'autre.
Je pense que c'est fantasmatique, mais je suis allée en Suède l'année passée, justement dans un colloque sur la nordicité où j'ai appris beaucoup parce qu'on m'avait invitée parce que j'étais...
Dans la maison étrangère, le père...
Stockholm. Oui, mais encore là, je n'avais pas remarqué tous ces liens. Non. Là, je suis à Stockholm, j'ai bien fallu que je le voie. Et on m'avait fait lire ça, d'ailleurs, le pôle Nord se trouve toujours quelque part dans notre cerveau. Puis c'est drôle, parce qu'il y avait des Suédois qui m'avaient dit, pourquoi tu parles du Nord comme si c'était une contrée étrangère alors que vous êtes des Nordiques? Ouais. Puis on avait eu comme une obstination, c'était assez bizarre. Mais moi, j'ai compris que dans le fond, c'est une partie de notre identité, même si ce mot-là, je l'aime pas trop, là, le mot identité, je trouve qu'on s'en sert trop. Mais c'est une partie de nous qu'on rejette ou sur laquelle on ne travaille pas. Par exemple, j'avais dit à mes élèves la semaine passée qu'on n'a plus de neige dans notre cinéma. C'est pas juste à cause qu'il n'y en a plus dans nos rues, d'après moi, là, ou que ça coûte trop cher au cinéma. On ne s'en servait pas beaucoup dans nos romans. Il y en a dans plusieurs romans, mais... Oui.
D'ailleurs, dans ce que tu as lu tout à l'heure, tu parles du Nord, puis ensuite tu dis au Sud, dans les jardins. Je sais pas,
oui,
tu reviens,
c'est ça.
Tu fais un retour vers le Sud. On est quand même, d'une certaine façon...
Moi, je me sens nordique, en tout cas. Je me sens vraiment nordique. Mais pour moi, l'obsession du Nord, c'est pas mon aspect nordique ou ma nordicité. C'est l'aspect paysagique, je sais pas comment dire ça, l'aspect des paysages extrêmes du Grand Nord, mm-hmm. l'extrême froidure, l'extrême solitude, l'extrême blancheur, quoique tout ça est en train d'être de s'en aller, mais aussi, je me souviens en Suède, quelqu'un m'avait presque reproché de dire que le Nord, de toujours associer les paysages nordiques à la mort, mais qu'est-ce que vous avez contre la mort? C'est quand même un passage obligatoire. Mm. Mais moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Le bruit des glaciers, d'ailleurs, ça m'a toujours fascinée. En même temps que j'ai une totale répulsion pour le froid, l'hiver et tout ça, là, je veux dire, j'ai toujours détesté l'hiver.
Parce que le Nord, ça peut être aussi l'énergie, ça peut être... chez certains auteurs, c'est ça.
C'est ça. Je suis jamais allée, par contre. Ouais. Mais tu sais, bon, aller en Alaska, c'est sûr que je vais le faire. Aller dans le Grand Nord, j'essaie là, de tenter de trouver un moyen d'y aller parce que je veux vraiment y aller dans le nord du Québec. Mm-hmm. Je sais pas si... Je trouve aussi que ça fait partie de notre pays, disons-le comme ça, et puis on n'en connaît rien. Mm-hmm. C'est quand même... assez particulier. Donc, il y a ça, mais il y a une fascination aussi enfantine. À l'époque du bruit des choses vivantes, on avait le droit de dire le mot esquimau, puis c'est un mot que j'aime beaucoup, puis que j'ai dit, puis que j'ai jamais corrigé dans mon livre. Là, je le corrigerai jamais. Moi,
ils ont essayé de te faire remplacer ça par
Inuit. Non, quand même. Ben, ils n'auraient pas réussi. Mais là, ce que les enfants disent Inuit, ça doit. Hein. Peut-être va falloir que je corrige. Mais esquimau, c'est pour moi, c'est ça venait de l'enfance, s'habiller avec la fourrure, s'habiller, je sais pas, c'est tout cet aspect à la fois sauvage et complètement clean, comme tu disais, du Nord.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Si tu veux, on va changer un petit peu d'angle, parce que jusqu'ici, on a parlé un peu de façon mélangée de la poésie, du roman ou des nouvelles, en tout cas, mais il reste que chronologiquement, il y a tout de même eu un passage, là, surtout en 89-91, au moment où tu écris « La terre est ici » et ensuite le roman, où d'ailleurs, le bruit des choses vivantes, d'ailleurs, entre les deux, il y a quand même pas mal de liens. Alors, ça m'a frappé dans l'entrevue que tu as accordée à Linda Amio dans « Nuit blanche » en 2003. Elle te pose la question et je trouve que tu fais une réponse intéressante. Tu dis, tu fais un lien avec le fait d'avoir des enfants. Tu dis, avoir des enfants est une expérience qui ébranle l'identité, qui fait prendre conscience de façon absolue de notre condition d'être humain, de notre propre mort, même si ça peut sembler paradoxal. La maternité nous lie directement à la notion du temps, de la mort et du corps. Et pour toi, ça te conduisait au roman aussi.
Oui.
Et je trouve ça intéressant. Bon, on pourrait poser, poser plusieurs questions là-dessus, mais ce lien entre maternité et roman me pousse aussi à te poser la question. T'appartiens un peu, à une génération que j'appellerais post-féministe, c'est-à-dire qui vient après la grande période militante comme telle. Est-ce qu'il y a un héritage féministe là-dedans? Le féminisme t'a marqué? En fait, ce qui a précédé là, dans les années, disons, 75 à 82, 83, justement au moment où tu commences à écrire, à publier des poèmes, est-ce que tu te considères un peu l'héritière de ça ou si c'est quelque chose qui a été relativement mineur dans ta démarche, je ne sais pas. En tout cas, chose certaine, à un moment donné, tu retrouves tout de même un point de vue... féminin, je ne dirais pas féminisme, en tout cas, il y a quelque chose souvent marqué, bon, les scènes de cuisine, par exemple, au début, avec les enfants. Je ne veux pas dire que les hommes ne sont pas dans la cuisine, mais c'est vraiment décrit avec le rapport aux enfants aussi.
Et tu es en train de dire que je fais des téléromans, ça m'en rend
sûrement pas. Non, mais il reste que dans le bruit des choses vivantes, c'est le rapport mère-fille qui est vraiment central. Tout est centré là-dessus.
Ouais.
C'est très fort.
C'est parce qu'il y a beaucoup de questions dans cette question-là.
Oui.
je me sens une... j'ai pas hérité de grand-chose mais dans la vie, mais ça, oui, parce que toute l'écriture féministe et féminine, parce que c'est pas toujours la même chose, mais moi, j'ai tout ce que j'ai lu m'habite encore et m'a mené là où je suis maintenant. Mais je dirais qu'il y a peut-être la différence entre les écrivaines, disons le mot, féministes, et les écrivaines de ma génération... à plusieurs niveaux, au niveau politique par exemple et au niveau du féminisme qui est un peu du politique aussi. La différence c'est qu'on s'est pas senti comme, comment je pourrais dire, là je suis totalement féministe, moi c'est sûr encore, c'est d'autres choses, mais on n'a jamais senti que dans l'écriture on avait à revendiquer ça. Ça avait été fait. En même temps, il n'était plus question de trouver une identité, pour moi là c'est après avoir réfléchi à ça, mais de la même façon qu'au niveau du nationalisme, à un moment donné, je crois que les écrivains sont passés ailleurs. Ça veut dire que dans leur vie, ils sont peut-être encore souverainistes ou la question politique les intéresse encore, mais dans l'écriture, on est ailleurs parce que on est dans les années 80-90, l'identité, elle est fragmentée. Moi, c'est pour ça que tantôt je disais, j'ai un problème avec dire que mes livres, par exemple, ce serait des recherches d'identité. Non, on n'est pas à la recherche d'identité, c'est fragmenté. On est dans la multiplicité des identités. On est déjà libéré de ce carcan-là. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas à chercher ou à prouver, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, une identité féministe.
Mm-hmm. J'ai à être toi.
J'ai à être moi, oui. Et ça, ça vient des autres aussi, mais c'est fou de dire j'ai à quatre mois, mais c'est ça. Mm-hmm. Et j'ai pas non plus de problème à être moi dans mes livres, dans la vie, oui, mais dans mes livres, tout va bien. Mm-hmm. Non, mais c'est très différent, c'est la même chose pour le politique, c'est pareil, ouais. Je crois. C'est que c'est pas une identité, c'est l'identité est déjà en état d'errance. Mm-hmm. Dans nos générations, d'après moi, c'est comme ça que ça se passe.
En même temps, le lien que tu fais entre maternité et roman, ça fait surgir quand même cette présence que moi je trouve extraordinaire dans tes livres, la présence des enfants, mais faire exister les enfants. Enfin, on disait tout à l'heure que l'étude de ce qui arrive est problématique, mais les enfants, c'est précisément ce qui nous arrive dans tous les sens du terme.
Oui, c'est problématique.
Et ça, je pense que tu le montres très bien. Et avec aussi tout ce que... Il y a une scène, je ne sais pas si c'est dans le bruit des choses vivantes, où la mère regarde sa petite fille, ça doit être là, ça doit être Albanie qui regarde Marie. Et la petite est dans son groupe de la garderie.
Ah oui, ça c'est...
Et ça, je trouve que c'est une très belle scène, où alors elle se promène avec comme des enfants de garderie, tenant la corde pour rester tous ensemble et tout ça. Et elle est vêtue d'une certaine façon, et ça prend un bon moment avant que qu'Albanie se rende compte que c'est sa fille. Elle ne la reconnaît pas au début. Il a dit, j'aurais pu la reconnaître tout de suite, mais non, ça m'a échappé et tout ça. Et donc, je dirais, tout ce côté déstabilisant aussi chez l'enfant qui s'habille, déjà, on a ça dans la voix de Carla aussi. Carla s'habille, c'est un autre jour, elle ajoute des croix, des flèches, des chiffres dans l'algèbre, des munitions cachées dans la paume, le désordre, quelques jouets. Il se passe toujours quelque chose autour de l'enfant.
Probablement que si je n'avais pas eu d'enfant, sûrement que je n'aurais peut-être pas écrit avec comme ça sur les enfants, ou pas sûr, là, on ne peut pas dire on écrit sûr, mais pour la question du temps, en tout cas, moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'est sûr que être mère ou être père, c'est être projeté dans le temps qui passe. C'est pas... Tout est question de temps. Lorsqu'il est question des enfants, leur vie qui passe, à quelle heure tu mets tes bottes, quand est-ce qu'on va souper, ça dure là, la question de la durée, la question aussi de la possibilité de leur mort. Moi, c'est dans le bruit des choses vivantes, pour moi, tu dis c'est un roman sur un rapport mère-fille, mais moi j'ai jamais vu comme ça ce roman-là, c'est drôle. Pour moi, j'aurais pu, si j'avais été un homme, je pense que j'aurais écrit peut-être, sûrement pas le même roman, mais si j'avais eu un garçon à cette époque-là, j'aurais fait avec mon garçon.
Oui, ça, tout à fait. Je pense que c'est l'enfant. C'est pas nécessairement le fait qu'elle soit fille. Je pense que c'est le fait
qu'elle
soit enfant.
Parce que quand on parle de rapport mère-fille, c'est très connoté.
Oui, non. Alors, disons mère-enfant.
Mère-enfant.
Mais ça donne que c'est une fille.
Mais je voulais la faire sous le mode un peu de la passion, mais pas de la passion, mais j'ai pas décrit une mère passionnée par sa fille, mais passionnée par le fait d'être parent ou qui trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu à temps plein aussi. Mm-hmm. Et là, je suis pas du tout dans un débat. On est dans la littérature, non. OK? On s'entend tout là-dessus, non? Parce que c'est important de le dire. Ce que je voulais faire aussi, moi, c'est un roman sur l'inquiétude. C'était ça mon... Ouais. C'était ça mon sujet de prédilection là-dedans. C'est mon clé. Mm-hmm. Comment ça se fait que dès le moment où tu as des enfants, l'inquiétude arrive avec? Mm-hmm. Ça, c'est tous les parents. Je ne suis pas la seule à être aussi folle parce que j'ai eu des lettres, mais tout le monde était... On s'imagine toujours... Moi, je me souviens d'une scène et je me suis fait raconter cette scène-là par des mères qui sont venues me voir souvent, ou des pères au Salon du livre. Mais j'étais en haut de l'escalier avec mon bébé. Et tu imagines que l'enfant, tu l'échappes. Tous les parents ont vécu ça. Ouais. Mais c'est quelque chose, c'est des possibilités. Comme dirait Kundera, écrire un roman, c'est mettre au monde ou mettre sur papier des possibilités de vie.
Des vies expérimentales.
C'est ça, des vies expérimentales, des égos, un égo expérimental. Donc, ce qui m'intéressait, c'est quoi la possibilité, comment tu peux vivre avec un enfant sachant la, sa mort possible, mm-hmm. entre autres, et ouais. la, évidemment mm-hmm. la tienne. Tu sais, c'est ouais. déjà pas drôle de vivre avec cette idée-là, mais...
Ouais. Et écrire pour les enfants, parce que j'ai mentionné, ça, ça survient comment dans tout ça, là? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que d'abord, on veut écrire pour ses propres enfants ou c'est une autre,
ben,
un autre niveau? Parce que t'as quand même, depuis 98,
ah oui, j'en ai fait pas mal,
t'en as fait pas mal. C'est assez, oui, je savais pas d'ailleurs, je m'étais pas rendu compte à quel point t'avais quand même pas mal écrit sur les pour les enfants.
Ben, j'ai pas écrit pour les enfants dans le même sens que j'écris pas sur quelque chose, mais j'ai essayé de... J'ai commencé à écrire avec une voix d'enfant. Tu sais, ça, c'est la question de la voix, parce que je trouvais mes enfants bizarres. Tu sais, la même façon que... mais c'est le même regard que la narratrice qui regarde la femme dans le métro. Ce regard-là, je suis capable de le porter aussi sur mes amis, excusez-moi, mes élèves, mes enfants, sur tout le monde.
Donc, de voir leur étrangeté.
Oui, je suis capable de... Ou leur beauté, non, ou leur folie. En tout cas, je trouvais qu'il y avait un monde. La façon dont mes enfants parlaient, par exemple, je trouvais que c'était romanesque. Mm-hmm. Parfois, je les trouvais romanesques. Fait que mm-hmm. je voulais copier sur eux autres, c'est pas compliqué. Mais j'avais commencé, puis là, je le faisais pas trop, mais j'ai eu un appel de la courte échelle, et puis là, je me suis fouettée un peu parce que je leur ai demandé de me donner un deadline, chose que j'aime pas faire, mais... Donne-moi un manuscrit, là, parce que sinon, je ne ferai jamais. Mm-hmm. Mais je me suis aperçue que mon idée, c'était d'écrire comme un mini bruit des choses vivantes. C'était ça que je voulais avoir la même espèce de voix, mais pour enfants. Puis j'ai toujours continué à écrire mes livres pour enfants de la même façon que j'écris tous mes autres livres. Je ne les écris mm-hmm. pas si ça ne me tente pas, ou si je n'ai pas comme quelque chose que je trouve. Mm-hmm. Mais dans mes livres pour enfants, il y a un humour qu'on ne retrouve pas dans mes autres livres. Mm-hmm. C'est assez jubilatoire pour moi, des femmes. Ouais.
Le pire ennemi d'Annette ou quelque chose comme ça?
Oui, le meilleur ennemi d'Annette. Ah, là, j'ai eu du fun là-dessus.
Non, c'est ça, le meilleur ennemi, pas le pire.
Ça permet des choses extraordinaires.
Oui.
Par exemple, dans les cahiers d'Annette, moi, j'ai une phrase que j'aime, ça m'a permis de l'écrire là. Je ne peux pas l'écrire dans un livre pour adultes, mais une petite fille qui dit « Est-ce qu'on est obligé d'avoir des amis? » Tu sais, moi, je trouve que c'est une phrase romanesque. Et
oui, ben oui.
C'est une phrase réelle, c'est une vraie phrase.
Oui.
On est tout obligé d'avoir des amis, Pierre. Bon. En tout cas, moi, j'entends ce phrase-là, puis ça me fait comme... Je trouve ça... J'aime ça.
Ah ouais.
Dans l'île de la Merci, tu passes à un autre niveau. Là, c'est plutôt adolescent, un monde adolescent. Oh. Alors là, c'est un roman assez terrible, mais d'une grande force aussi, hein, d'une autre manière. Je dirais, où ce personnage d'Hélène, adolescente, à la maison familiale, mais une maison où ça... Le couple, les parents sont plutôt en mauvais termes. Puis évidemment aussi avec cette île qui est en marge un peu du quartier où s'est produit un assassinat, où une jeune fille, en tout cas où une jeune fille a été retrouvée, violée, morte. Ça m'a frappé en lisant ensuite, mais je ne les avais pas lus de manière approchée, mais dans Sombre ménagerie, ça m'a frappé à un moment donné que tu as ces vers qui se lisent comme suit. J'enfile la robe d'une jeune fille disparue et enterrée dans un sous-bois. La douleur a mis des années à me trouver. D'abord, je trouve cette phrase, la douleur a mis des années à me trouver. Je trouve ça extraordinaire. Mais aussi, je me disais, mon Dieu, tout à coup, c'est comme si tu étais cette jeune fille. Je ne sais pas s'il y avait une réminiscence de l'île de la Merci, mais en tout cas, cette jeune fille enterrée dans un sous-bois, c'est un peu... je ne me souviens pas de son nom, là, mais quelque chose qui hante beaucoup l'autre adolescente.
Hélène,
qui est complètement... Qui est à la fois... dans une sorte de peur, mais en même temps fascinée au point où elle retourne sur l'île avec son amoureux, puis elle...
Mais je crois quand même que quand on écrit, même si c'est pas... On parle pas d'autofiction ici, ni d'autobiographique, mais
non.
Je pense que on écrit avec les questions qui sont dans... C'est les questions qui sont dans ma tête à ce moment-là. Donc, la jeune fille violée, disparue, enterrée dans un sous-bois ou ailleurs, pour moi, c'est un motif, ou je ne sais pas comment l'appeler, qui revient beaucoup.
Ouais.
D'ailleurs, là, j'ai envie de faire un livre sur toutes ces femmes qui sont assassinées au Mexique, dans la Cité des Mortes. Il y a quelque chose d'insupportable dans cette idée-là. Et en même temps, quand je l'ai écrit, le livre... J'avais besoin de l'écrire, mais c'était très difficile parce que c'était l'époque où il y avait eu plusieurs meurtres et plusieurs viols. Puis je m'étais servi des journaux, puis je m'étais mis un peu dans la peau d'Hélène pour pour savoir comment ça se passait, mais dans un roman, le roman part toujours soit d'une image, soit d'une question, ou probablement les deux. Et l'image que j'avais pour écrire Les Amercis, c'était, je voyais une jeune fille travaillant dans un garage. C'était commencé comme ça, puis ça a duré des années.
Oui, parce qu'Hélène
travaille dans un garage.
Ouais,
mais je chantais, je voyais pas pour moi, une adolescente, c'est pas un livre sur l'adolescence, ça m'intéressait plus ou moins, mais il fallait qu'elle ait 15 ans, parce que je voyais quelque chose de très lourd autour d'elle.
Ça m'étonne quand même, parce que je dirais que le rapport au corps, à la sexualité...
C'est ça qui m'intéressait.
Et je veux dire, il y a une scène extraordinaire là où elle est avec ce garçon qu'elle rencontre. Il y a un rapport au corps très difficile aussi, comme peuvent l'avoir les adolescents. Enfin, rien n'est joué là. Il y a une sorte d'étrangeté.
Oui, quand elle fait l'amour, elle se regarde.
Elle se regarde de l'extérieur. Elle ne colle pas à tout ça. Donc, de ce point de vue, moi, je voyais ça... peut-être à tort, comme plongé dans quelque chose qui est, d'un point de vue adolescent, extrêmement intense.
C'est comme si je faisais le chemin inverse, moi. La question qui m'intéressait, c'est la question du corps, ensuite de la sexualité. Je fais un chemin, tu sais, de la sexualité dans un monde où partout, à la une des journaux, à ce moment-là, mais souvent, les filles disparaissent, sont violées. Bon, le viol, c'est une question qui est très difficile pour moi. Puis finalement, je mets une adolescente parce que c'est elle qui me permet de...
C'est un foyer catalyseur
de tout ça. Mm-hmm. Je me rends compte aussi que cette image de fille au garage, il y a quelque chose de très lourd sur elle. Et je me dis, bon, c'est sa famille aussi. J'avais envie de créer un monde, une espèce d'échiquier où... Dans une famille, je comparais la famille à un échiquier. Et je ne sais pas jouer aux échecs, mais ce n'est pas grave. Je pense que quand on joue aux échecs, chaque pion doit bouger d'une façon.
Hein? Chaque pièce, oui.
Chaque pièce ou chaque affaire. Là. Chaque petite cute affaire. J'ai un jeu d'échecs parce que je suis ça. En tout cas, il y a des règles. Et moi, je crois que dans une famille, il y a des règles. Disons que si quelqu'un, comme Hélène, par exemple, déroge à la règle où tu es supposé de bouger en droite ligne et tu bouges en diagonale, ça défait le jeu, ça se peut-tu?
Oui, bon. Tout à fait. Oui.
Et moi, c'est ça que j'imaginais. Dans cette famille-là, la famille tient parce que Hélène bouge comme elle est supposée de bouger, parce que la petite Lisa pense comme elle est supposée de penser, parce que le petit Samuel fait des farces, parce que les parents... Bon. Ouais. Parce que finalement, c'est les enfants qui font tenir toute cette famille-là. Et le moment où Hélène va travailler au garage, elle se déplace en diagonale, sort de la famille, devient menacée par le monde extérieur parce qu'il y a eu un meurtre à côté de chez elle. Et le monde extérieur, à ce moment-là, le cri, parce qu'il y a toute une question du cri, le cri à l'extérieur peut enfin résonner jusqu'à l'intérieur de la maison. Mm-hmm. Parce que le drame d'Hélène, c'est le silence de ses parents.
Tout à fait.
Fait que moi, les deux drames étaient liés, le drame intérieur, le drame extérieur. Donc,
En tout cas, il y a quand même, par rapport, mettons, au bruit des choses vivantes, il y a un changement de tonalité. J'ai l'impression qu'avec l'enfance, il y a toujours quelque chose d'un peu volatile et d'un peu léger. Elle a tempéré une lourdeur. Puis moi, je trouve, par exemple, il y a une phrase qui est quand même, qui va tout à fait dans ce sens-là. Le monde est rempli de promesses morbides, si lourdes les choses terrestres, obscures. Tu as dit ça. Si lourdes les choses terrestres.
C'est vrai.
Et là, on a l'impression qu'il y a tout le poids du monde et un monde, et tout le thème de l'inquiétude ou de la peur, carrément, qui est là et qui est très, très présent.
Mais il était déjà là dans le bruit des choses
aussi,
vivantes.
Aussi.
Parce qu'à la fin du livre, quand même, décrit, Albany dit, la vie est une chose volée. Il y a quand même beaucoup d'inquiétude dans ce livre-là. Mm-hmm. Et normalement, disons que c'était le même personnage, normalement, ayant des enfants plus vieux, l'inquiétude devient grande. Je veux dire, avec une fille de 15 ou 14-15 ans, l'inquiétude, la menace. Mais je voulais faire comme un peu l'envers de ce monde. En fait, je n'ai pas voulu ça, ce n'est pas un projet.
En fait, chacun des romans, je dirais, si
mène à l'autre.
Le bruit des choses vivantes, L'île de la Merci et La Maison étrangère, ensuite, nous fait une avancée. Il me semble que c'est assez net. Là. Dans La Maison étrangère, il y a un autre changement de ton aussi. Alors là, on peut en parler un peu, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, évidemment, la figure du père et de la mère qui deviennent très présentes. Et moi, une chose qui m'a frappé particulièrement, c'est l'importance ici, qui était vraiment négligeable, me semble-t-il, dans tes livres précédents, de tout un arrière-plan religieux ou spirituel. Mm-hmm. Enfin, ça prend plusieurs formes. Bon, évidemment, le prix Dieu qu'avait la mère qu'elle s'est fait acheter par le père, je pense, bon, elle avait un prix Dieu dans sa chambre et tout. Mais aussi les références à la Bible, les chapelles visitées au cours d'un voyage en Grèce et en Italie, les citations même de Saint Paul, du site Saint Paul, ce passage-là est quand même, je pense, significatif. Nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Ça, c'est une... Donc, je dirais, en tout cas, il y a un discours aussi qui donne aussi sur la notion d'immortalité. En tout cas, le religieux ici est comme repris d'une certaine façon. Et je me demandais quelle place ça occupait chez toi et si c'était quelque chose qui pour toi... qui était important, pas nécessairement que tu sois religieuse, mais en tout cas, écrire là-dessus. Pourquoi cette prise en charge?
Cette phrase-là, premièrement, elle m'est apparue, comme la Vierge. Je suis allée écouter l'oratorio de Noël à la Basilique Notre-Dame. C'est vraiment... Puis j'ai entendu cette phrase-là, puis je sais pas pourquoi cette phrase-là pouvait plus me quitter sur l'incorruptibilité. Puis j'étudie les phrases des fois là, longuement. Là, pendant des semaines, je peux lire la même phrase, essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Puis ça m'intéresse. Il y avait quelque chose qui m'intéressait dans cette histoire d'immortalité, mais en même temps de corps, revêtir son corps de l'immortalité. Bon. Mm-hmm. Et puis, la religion, pour répondre à ta question, non. La religion a occupé une place dans ma vie, comme tout le monde de mon âge. Mais dans le mauvais sens du terme, ça m'a terrorisé, la religion. Mm-hmm. Mais j'avais envie, pour vrai, là, j'avais envie de créer un personnage de mère très pieux. J'avais besoin de faire ça, très pieux, très dans la religion, et qui, en même temps, rend, sans s'en rendre compte, rend sa fille très coupable de vivre. Mm-hmm.
Oui, mais il me semble qu'il y a un autre niveau.
Il y a un autre
ton
niveau.
Personnage principal, Élisabeth,
Élisabeth.
Historienne, enfin médiéviste et tout ça.
C'est plus la spiritualité.
Dans une démarche, en tout cas, dans quelque chose qui est plus que dans des autres. L'intériorité occupe beaucoup plus de place dans ce roman-là que dans les précédents, je trouve. Quoi que ça soit déjà présent aussi dans L'île de la Merci, d'une autre manière.
Mais je crois qu'elle occupe une place différente.
Il me semble aussi.
Différemment, plutôt. Mm-hmm. Le personnage d'Élisabeth est une médiéviste. Alors, moi, j'étais quand même intéressée à créer un personnage qui s'intéressait à l'histoire, à cause de sa mère, entre autres, parce que sa mère aimait beaucoup l'histoire et tout ça, qui a un rapport à son corps assez difficile. D'ailleurs, elle l'appelle la maison étrangère, c'est son corps. Elle vit dans une maison étrangère. Ouais, un peu comme Hélène. C'était au début, d'ailleurs, presque le prolongement de mon personnage Hélène. Ce qui m'a intéressée dans le médiéval, moi, c'est toute la pensée spirituelle, la pensée des philosophes, qui est très concrète, d'ailleurs, qui nous apprend, par exemple, que pour arriver à la lumière, faut passer par l'obscurité. Des choses qu'on pense qu'on sait, encore une fois, comme tantôt, on pense que c'est ça, qu'on le sait comme faux, mais faut le comprendre et l'utiliser pour le savoir comme il faut, faut l'intégrer, disons. Comme Élisabeth qui peinture tout son lieu de travail en foncé pour intégrer ça. Donc, Élisabeth... s'est intéressée à ça, et moi, ça m'a beaucoup intéressée. Parce que la pensée médiévale est fascinante à cause du monde analogique qu'elle crée. C'est-à-dire que tout l'univers est en relation, toutes les choses sont en relation les unes avec les autres. La musique est en relation avec la peinture, les planètes sont en relation avec le mouvement du sang dans notre corps, la mort est en relation avec la vie, l'inverse, les miroirs... Enfin, moi, c'est un monde de correspondance qui j'ai trouvé très poétique et qui me convenait tout à fait au niveau, par exemple, de la symbolique, les bestiaires. Il me semble que j'ai trouvé là qu'est-ce que je faisais aussi en poésie, dans un sens.
Donc, vraiment quelque chose d'un peu archaïque aussi. Tu es à la fois dans le très contemporain, mais il y a peut-être quelque chose qui...
Je suis vraiment archaïque, finalement.
Quelque chose qui est plus de l'intemporel ou en tout cas une temporalité très lointaine.
Oui, en même temps, ce que j'étais en train de dire dans ce roman-là, c'est on n'est pas dans... c'est une fille qui s'intéresse au corps, est en train de faire une thèse de doctorat sur le corps, mais
elle l'a détruit à un moment donné.
Oh oui, elle jette ça dans la poubelle.
C'est terrible, cette scène-là, où elle détruit tous ses fichiers, elle prend son ordinateur. Puis...
Oui, mais c'est tellement fun.
C'est pas long.
Tellement fun à écrire, en tout cas. Mais en même temps, elle sait très bien qu'il y a toujours des copies. Mais c'est le geste qui est important, parce que c'est un personnage qui est en manque de rituels, disons. Mm-hmm. Comme moi, comme beaucoup de monde, moi, j'ai beaucoup de rituels dans ma vie, mais je trouve qu'on est en grand manque de rituels. Mais ce que je disais, c'est que paradoxalement, elle fait une recherche sur le corps, la représentation du corps dans les écrits au Moyen Âge. En même temps que ça se passe en 2005, je ne me souviens pas trop, en tout cas dans nos années, où le corps est tellement représenté qu'il ne dit plus rien. Mm-hmm. Alors qu'à l'époque médiévale, il est voilé, mais il dit beaucoup plus. Mm-hmm. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé en regardant des tableaux, tout ça. Mm-hmm. Et c'est ce que Elisabeth voit aussi, c'est que dans une époque obsédée par la communication, pourquoi ne pas passer par la noirceur et le silence? Mm-hmm. Et cette recherche d'obscurité-là, moi, m'intéressait. En même temps, elle dit aussi, moi, je veux échouer. Permettez-moi d'échouer. C'est ça qu'elle dit, Elisabeth. Mm-hmm. J'ai besoin d'échec. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est un discours qu'on n'entend pas souvent. En tout cas, moi, j'avais envie de travailler sur ce discours-là. Je veux échouer. Mm-hmm. Et c'est ce qu'elle fait. Elle échoue, mais son échec est...
As-tu déjà eu l'impression d'être en train d'écrire un livre, d'être en train d'échouer, ou en tout cas même d'avoir le goût de le détruire, comme elle le fait de sa thèse? Enfin, tout le temps?
Non, pas vraiment. Non, c'est une boutade, mais...
Non, mais...
Non, parce... Passé, ouais. Non.
Non, pas vraiment.
Oui, j'ai le goût de jeter tout aux poubelles, mais je ne ferais pas ça. Non. J'ai trop plaisir quand même dans l'écriture.
En parlant d'écriture, là, peut-être dans un sens, là, on peut quitter des livres particuliers, mais toujours dans cette entrevue, dans Nuit Blanche, tu évoquais un rituel d'écriture pour toi que je considère intéressant, c'est que tu dis que souvent, avant d'écrire, tu danses parfois pendant un certain temps.
Je le fais moins.
Et ça, je trouvais ça, tu le fais moins, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant, ce rapport à la danse.
Ah, j'ai fait ça très longtemps, oui.
Est-ce que l'écriture est une sorte de prolongement de cette danse-là, peut-être, je ne sais pas. Et tu avais l'air, tu sembles dire en même temps que cette danse-là te permet de mieux sentir les choses, pas seulement ton corps, mais tu dis, ça me met comme à l'écoute, comme si ça aiguisait ta perception, je ne sais pas.
Ça me permettait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais probablement je le fais différemment, mais ça me permettait... d'être dans une action, de penser que l'activité physique qui était la danse, puis il y a la musique là-dedans, tout ça, c'était une chose. Et m'en aller en haut, parce que j'ai une escalier à monter dans mon bureau, ça continuait. Donc, pour moi, j'aime penser que écrire, c'est une activité physique. Mm-hmm. J'aime beaucoup cette idée-là. Mm-hmm. Je dis une idée, parce que je pense qu'on écrit avec notre tête aussi, là, quand même. Mais on écrit beaucoup avec notre corps. Et ça, j'aimais aussi avoir l'impression d'être un travailleur qui retrouve ses manches.
Ce qui fait d'ailleurs que c'est assez épuisant.
Oui, c'est épuisant à écrire. Mais je voulais déjà être épuisée avant d'y arriver, probablement. Mais avoir l'impression d'un travail, là. C'est physique, je travaille. Aussi, moi, je vois le travail de l'écrivain comme un travail d'artisan. Moi, je me considère comme une artisane. Je suis un artisan qui gosse le bois, mais là, ça sonne... J'ai déjà dit ça une fois. Je m'étais fait tellement gueuler dans un colloque où on m'avait dit... oh, j'oublierai pas ça, c'est rare. Tu sais, j'avais dit... On parlait être intellectuel au Québec. Moi, je disais que c'est pas parce qu'on est un écrivain qu'on est un intellectuel. Mm-hmm. Le contraire...
Non, je
Je disais que j'essayais d'expliquer, mais là, tout le monde m'a crié, là, mais vraiment, c'est épouvantable. J'essayais d'expliquer que dans mon travail d'écrivain, je ne me sentais pas comme une intellectuelle, mais comme un artisan. Ouais. Dans mon travail de professeur, c'est autre chose. Quand je lis, et là, tout le monde avait dit, voyons, donc, si tu dis là, tu es une anti-intellectuelle à moi, pas du tout, tu sais. C'est pas ça, mais c'est un travail d'artisan. C'est un travail d'artiste, l'écriture, quand même. Faut pas, se leurrer là-dessus. C'est ça. Quand on fait de la poésie, tu dois penser la même chose. On en a totalement conscience.
Labeur. De toute façon, il y en a d'autres avant, comme Miron et d'autres, qui ont parlé, ont dit ça aussi. Le côté artisan, le côté menuisier.
Le côté menuisier de l'affaire.
Polir le promenade et tout. Bon, c'est ça.
D'ailleurs, la partie la plus fun, c'est le polissage. C'est quand on a fini, puis là, on se met à travailler sur le détail.
Mettons, pensons peut-être surtout au roman, je ne sais pas, là, mais au texte de prose, est-ce que tu les écris rapidement et tu reviens beaucoup dessus ensuite, ou ça se fait plutôt péniblement, phrase à phrase,
page à page, ouais. mot à mot, ouais. comme un poète. Ouais. Mais je pense assez rapidement, malgré tout, maintenant que je pense, parce que mais je réfléchis, ça peut prendre des années. Disons, par exemple, l'île de la Merci, cette image de fille au garage.
Oui, ça t'avait hanté longtemps?
Bon, oui, des années, 5, 6, 7 ans. Là. Mm-hmm. Puis souvent, ça me hante, puis là, j'écris le bruit des choses vivantes, puis c'est après que je l'ai, je l'ai travaillé. Mm-hmm. Donc, c'est des choses qui sont là, derrière ma tête, et qu'à un moment donné, je vais finir par travailler. Mais...
Et les poèmes, mettons, je pense à son ménagerie? Ou
mais ça, je l'ai écrit assez vite, quand
ça,
même.
C'est quand même assez lourd. Oui,
ça,
aussi,
ça...
assez, il y a une certaine violence là-dedans, là,
ouais,
sombre aussi.
C'est très sombre.
Oui, oui. Ouais.
Ben, mais le fait de l'avoir écrit, c'est ça la lumière, dans le fond. Ouais. Celui-là, je l'ai fait assez vite, malgré tout, parce que je ne l'ai pas fait pour le publier, ni pour l'écrire. Je ne sais pas comment dire ça.
Ni pour l'écrire?
Non. Il y a toute une partie de ce livre-là que j'ai écrit pour sauver ma peau. Je ne sais pas comment dire ça. Bon, ça a l'air... Oui,
mais ça arrive parfois qu'on écrit des
livres. Oui, c'est ça. J'étais juste assise. J'avais besoin de l'écrire, puis j'avais besoin d'écrire pour continuer mon roman, puis il fallait... Mm-hmm. Je sais pas, j'avais une impulsion étrange. Mm-hmm. Très vite, quand même, l'écrivain en moi est revenu, puis a remis ça sur la table de travail.
Ça paraît évident.
J'ai travaillé assez fort, mais il y a quand même, c'est une époque bénie, parce qu'il y a des grandes parties qui sont... Mm-hmm. qui sont arrivés assez sombrement vite.
Bon, oui. pas, mais... on va peut-être parler un peu, bon, le temps passe, mais je voulais te poser une question sur ton rapport aux autres écrivains. Bon, c'est sûr, tu cites ici et là un certain nombre d'autres écrivains, je mentionne entre autres. Bon, parmi les Québécois, tiens, tu es une des rares à citer Dominique Robert, ou en tout cas, tu l'as, une auteure, moi, que j'aime beaucoup, à mon avis, très sous-estimée, mais enfin, bon, tu la mentionnes, mais aussi chez les étrangers, quand même, Clarice Lispector, Hector Bianciotti, Raymond Carver, Joyce Carol Oates, bon, tout ça. Comment, c'est quoi ton rapport aux autres écrivains? Est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement importants là-dedans, qui te nourrissent ou qui t'ont nourri à certains moments? Je ne sais pas, pour les nouvelles, par exemple, Carver,
oui.
Ça serait Joyce Carol Oates. Qui apparaîtrait, Joyce Carol Oates aussi.
Mais je ne suis pas très bonne pour nommer, parce que je n'ai jamais de mémoire quand on me demande de nommer.
Non.
Mais j'ai un rapport très désorganisé à la lecture, moi. J'ai plus du tout d'organisation. Je lis n'importe comment. Des fois, je vais lire...
Des parties de livres.
Oui, des parties, passer un autre.
Il faut faire ça.
Oui, ouais, je me sens très coupable. Mais je lis... C'est désorganisé. Quand une phrase me frappe, j'ai un rapport organique avec ça. Si j'ai une phrase que je trouve que ça devrait être à moi, je la prends, puis je l'amène à mon livre. Mm-hmm. Ou bien qu'elle vient éclairer quelque chose de spécial ou de nouveau. Mais je ne citerai pas pour citer. C'est pas quelque
mais
chose
j'ai l'impression que tu fonctionnes beaucoup comme ça. D'ailleurs, dans La Maison étrangère, les citations que je donnais, par exemple, Saint-Paul et tout, c'est des phrases, tout à coup, qui ont l'air...
Que j'ai étudiées, qui sont venues...
hantées et qui, là...
Oui, ils m'ont hantée.
Et donc, tu les... Effectivement, tu prends ton compte.
Parce que souvent, quand on écrit, souvent, ça se passe comme ça et ça devrait se passer comme ça. Bizarrement, sur le chemin de l'écriture, on rencontre ce dont on a besoin. Mm-hmm. Moi, ça se passe comme ça. Et tout d'un coup, une citation, un livre, quelqu'un t'amène au musée alors que tu ne voulais pas y aller ce matin-là. Non, ça ne me tente pas de sortir, mais il t'oblige, puis tout d'un coup... Ah, mais là, j'avais besoin, comme là, le livre que je suis en train d'écrire, que j'ai fini, mon directeur littéraire est en arrière.
Oui.
Je vais finir bientôt. Yeah. ça s'en vient.
Mais, il paraît, je sais pas, là, soucieux et
non,
impatient.
Non, il est patient.
Il est patient.
Non, mais quand j'étais en Suède, j'étais aussi en Finlande, puis j'ai rencontré un peintre dans le sens de la rencontre. Je n'ai pas rencontré lui, là, mais j'ai vu des fresques dans une église. Mm-hmm. Et c'est ces fresques-là, j'ai ramené les cartes postales qui m'ont fait comprendre ce que je devais faire dans mon livre, dans un certain sens.
Mm-hmm. De façon tout à fait inattendue.
Ah oui, tout à fait inattendue. Mais il faut être... faut être en état de perception. Faut avoir, tu sais, faut un état de perception pour le percevoir. Là, tout le monde. Ça, je le dis souvent à mes élèves en création aussi. Il faut que tu sois dans cet état-là pour le capter quand même, parce que c'est là. C'est la même chose pour les phrases. Des fois, comme cette phrase-là de Saint-Paul, je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais. En fait, de... quoi? Faudrait, je pense que je vais la réutiliser, ben, d'ailleurs. Je pense que je n'ai pas encore compris tout à fait.
Ben, dans la mesure où ça concerne la mort, mais aussi une façon de dépasser la mort.
Oui, mais qu'est-ce que l'immortalité? Qu'est-ce que...
C'est le corps corruptible, évidemment. Bon, mm-hmm. On peut même penser au brocoli pourri du début. Là. Je veux dire, ben, les choses et les êtres pourrissent, malheureusement. Bon.
Ouais,
et donc, là, il y a comme tout à coup une ouverture.
Ça, c'est mon prochain livre.
Une ouverture sur autre chose. Là, sur,
ouais.
Un au-delà.
Un au-delà. On verra.
Oui, c'est ça. Peut-être un mot sur... parce que tu dis que tu enseignes la création. Comme écrivaine, de quelle manière ça te nourrit ou comment est-ce que c'est important pour toi? C'est intéressant. Là, tes étudiants sont là. Là. Enfin, certains d'entre eux, en tout cas.
Oh, j'aime ça, là. Qu'est-ce que je peux dire?
Non, ici, il faut dire la vérité.
Oui, la vérité, c'est que l'enseignement de la création, c'est nouveau dans ma vie. Ça fait, assez nouveau. Ça fait 2 ans que j'enseigne la création. Puis ça a sauvé ma vie d'enseignante dans un sens. Parce que l'enseignement au cégep, c'est très difficile. Puis j'en pouvais plus de ce carcan de
oui, ça, je peux dire, je t'ai déjà entendu. Là,
de livres obligatoires et d'élèves qui veulent rien savoir de toi. Ça, c'est pas grave, à la limite. Mais quand tu parles avec passion de livres que t'aimes et qu'il n'y a pas de...
Pas de feedback.
Moi, c'est comme si je tombais dans un puits sans fond, là, physiquement. D'ailleurs, Elisabeth le décrit dans son roman, dans mon roman, La Maison étrangère, elle dit « Chaque fois que j'arrivais dans ma classe, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. » Moi, j'ai senti des années.
Oui, je me suis demandé, d'ailleurs, si ça venait pas d'une expérience personnelle.
Oui, ça, c'est vrai.
Quand même, c'est assez fort.
Tout n'est pas vrai. Est vrai dans mes livres, mais tout n'est pas... Tout n'est pas anecdotiquement ma vie, là, mais ça, c'est vrai. J'avais besoin de l'écrire. Je me voyais m'évanouir, puis là, comme dans une belle scène de film. C'est à tes livres, ils tombent tous les uns après les autres. Puis là, j'ai une belle robe bleue. En tout cas, je voyais ça.
Ah, la robe bleue, quand même.
La robe bleue revient tout
quand
le temps.
Quand même, elle est importante.
Mais je l'ai plus. Mais en enseignant la création, j'ai l'impression d'être exactement à la place où je suis, c'est-à-dire d'être un cordonnier qui est en train de montrer comment réparer des souliers ou comment les créer. Ils ont réparé peut-être pas, là. Mm-hmm. Je ne vais pas dire que je répare vos textes, là, mais j'aime assez ça. J'aime ça expliquer mon lien avec les mots, mon lien avec la création, mon lien avec tous les livres que j'ai lus. Je me sens dans une espèce de don que je ne pouvais pas sentir avant. Moi, j'aime ça donner... C'est le fun, quand même, en enseignement. Mais quand quelqu'un ne peut pas le recevoir, il te rebondit en face. C'est ça qui arrive. mais quand on parle de création, c'est concret aussi. J'ai l'impression de parler de mon métier. C'est plus... j'aime mieux ça.
Et comme c'est peut-être ma dernière question, pour ensuite, si les publics avaient ajouté quelque chose, peut-être des questions de son côté. À l'intérieur de la littérature québécoise, bon, tu fais partie de cette institution, tu fais des lectures, tu publies au Québec, tu te sens comme à l'étroit.
Je suis interviewée par Pierre Neuf.
à l'étroit ou très à l'aise là-dedans. Puis on sait aussi à quel point il y a des espèces de constats un peu contradictoires, constamment aux antinomiques sur la littérature québécoise. C'est-à-dire, tantôt, c'est vrai, la littérature québécoise se porte quand même, on peut dire. Il se publie plein, quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de bons poètes, et beaucoup de... Donc, une littérature qui, quand même, est assez florissante. De l'autre, des constats qui sont souvent assez déprimés, négatifs, bon, et tout. Je sais pas...
Négatif à...
Soit pour ce qui est de son
la
manque
réception?
De rayonnement, le manque de lecteurs au Québec, ou en fait, le piètre état du marché du livre, enfin, tout ça. Il y a des questions institutionnelles là-dedans, là, qui ne concernent pas seulement l'écriture.
J'ai relu quelque chose autrefois, mais je ne peux pas le citer, puis je ne me rappelle pas c'est qui, mais qui disait on devrait être content que la littérature n'ait pas plus de rayonnement sur la scène médiatique. Finalement, peut-être qu'on devrait penser ça. C'est si grave que ça, en fin de compte. Ouais. Bon, il y a quelque chose...
Je pensais aussi à un rayonnement à l'étranger.
À l'étranger, oui, mais ça, c'est très compliqué, cette question-là. Mais à un moment donné...
Ça a été traduite quand même en catalan, en anglais.
Mais moi, j'ai l'impression qu'on s'est trompé longtemps. Moi, je pense qu'on se trompe encore en pensant qu'on devrait aller en France. Moi, je pense que c'est sur notre continent qu'on devrait essayer de rayonner. C'est ça, c'est ma vision. Mais je l'ai toujours cru aussi. Je me suis toujours sentie beaucoup plus proche des écrivains américains ou sud-américains, entre autres, que des écrivains français. Mais ça, c'est très personnel comme vision.
Moi aussi, dans ceux que j'ai cités, d'ailleurs, il y en a plusieurs, Malie Spector, Carver, Oates,
ou même, bon, j'aime beaucoup les écrivains du Nord, les écrivains suédois, tout ça, mais je pense qu'on se trompe en pensant... Là où ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'on est encore un peu colonisé dans le sens que si un livre est bien reçu en France, tout d'un coup, nous autres, on a l'impression qu'il faut... Ça nous donne... Ah, ben c'est vrai que ça doit être bon, tu sais.
Mais la norme est toujours française.
La norme est encore là. Puis ça, c'est pareil pour tout, là. Mm-hmm. Tant que c'est pas estampillé par les Français, là, ben on l'a pas. Bon, l'autre chose qui m'énerve, c'est... Je sais pas, là. C'est, non, rien. C'est peut-être pas dans ta question.
Mais en tout cas...
La littérature est dans une drôle de... La culture en général est dans un affaiblissement, moi je trouve. On est dans un affaiblissement de la culture en général. Mm-hmm. Et quand on est dans cet affaiblissement-là, c'est la littérature qui s'en trouve le plus
en même temps, j'ai...
affaiblie. Ouais. Pas affaiblie chez les créateurs, là, mais dans sa position dans la société.
Mm. En même temps, surtout dans tes derniers livres, notamment dans La Maison étrangère, je sens une foi dans une certaine culture.
Enfin, totalement.
Une prise en charge de ça, un refus de l'amnésie complète.
Ah, moi, j'y crois totalement. Moi, ben oui, sinon, je ne ferais pas ça, mais j'y crois dans la façon... Comment je pourrais dire? Je crois à la littérature, mais disons, j'allais dire pure et dure, là, j'aime pas ça, ce mot-là, mais je crois à la littérature qui fait un travail littéraire. C'est fou à dire, là, mais...
C'est clair que c'est ce que tu fais aussi.
Ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, les mots prennent différents sens, et à un moment donné, dans le mot littérature, finit par être inclus toutes sortes d'affaires qui n'en est plus, puis on a peur de le dire. Ben, moi, je le dis. Il y a des affaires, des livres qui c'est pas de la littérature, puis c'est d'autres choses. Je dis pas que c'est pas correct, mais... Alors, moi, ça, j'ai peur de ça, parce que on dirait que les gens qui font un travail un peu plus, je sais pas comment dire, pas profond, mais un travail d'exploration, de découverte, de traversée en forêt, comme je dis souvent, ce travail-là est perçu assez négativement tout de même, somme toute, au Québec, encore. Pas juste en littérature.
Mais par qui? Tu veux dire, par l'ensemble?
Par l'ensemble des intervenants culturels, par les journalistes, souvent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas le dire comme ça, mais ils vont dire d'autres choses. C'est difficile à lire. Difficile à lire, là, ça ne veut absolument rien dire.
Je crois que Pierre Foglia avait dit beaucoup de bien du bruit des choses vivantes. Est-ce que je me trompe?
Je crois pas. Pierre Foglia n'a jamais parlé de moi, sinon j'aurais plus d'argent.
Il me semble. Non, mais là, je crois... Je suis presque sûr.
Je pense que
Pierre Foglia avait fait écho au bruit des choses
trouve
vivantes.
Trouve ça, par moi. Envoie-moi là,
bon,
parce que... Pierre Foglia, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas son genre. Mais... Non, mais... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire?
Oui, non, d'accord.
C'est qu'on va... Dès qu'on est dans une espèce de recherche qui, en fin de compte, le but, c'est pas un but, mais je veux dire, l'idée d'écrire des livres et de faire une recherche en art, en cinéma ou en quoi que ce soit, c'est d'inventer une voix qu'on n'entend pas. Je veux dire, de parler une voix qui n'est pas la voix qu'on entend tous les jours, la voix ambiante.
Donc, qui va exiger...
Qui va exiger un minimum de plaisir. Moi, j'appelle ça du plaisir, là, mais un minimum d'attention... Ou, je dirais plutôt d'engagement, tu sais. Mm-hmm. S'engager dans un livre, on n'est pas obligé de faire ça à l'aveuglette. Mm-hmm. Et c'est pas parce qu'on le fait pas à l'aveuglette que c'est énormément difficile ou que, c'est pas accessible. Moi, j'ai jamais compris qu'on a dit toujours de mes livres qui sont pas accessibles. Je le comprends pas. Je comprends pas du tout. Ouais. Ben, c'est toujours la première phrase que je me fais dire. Ouais. Et tu ressembles donc pas à tes livres. D'un côté, heureusement. Mais...
Toi, on te comprend, mais tes livres, on les comprend.
C'est ça. Toi, voilà, t'es drôle, mais tes livres. Ah oui, ça, en plus, être pas nécessairement comique.
Oui, non, c'est ça, Bella, oui, c'est sûr, l'exigence de l'humour.
Ben,
bon,
merci, Pierre.
Ben,
t'es pas mal
surtout,
bon.
C'est surtout moi qui remets.
Je fais tout ici.
Alors, merci. merci en votre nom. Vous venez de le faire en l'applaudissant, mais je pense qu'on... Peut-être qu'Élise a appris quelques petites choses, mais nous, on en a appris pas mal plus aussi sur son travail et sur ce qu'elle est.
Alors, merci beaucoup.
Merci.